7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et les voisines, j'espère que vous êtes là aussi. Aujourd'hui, nous parlons des e-influenceuses. Qui sont-elles? Des filles sorties de l'anonymat grâce à leurs blogs, leurs tweets, leurs photos qui claquent comme des tendances. Suivez mon regard, suivez mes coups de cœur, suivez mes astuces pour la vie de tous les jours ou comment les femmes sont devenues de redoutables faiseuses de tendances. Pourquoi les marques sont à l'affût de cette nouvelle façon de communiquer? On en parle avec nos invités. Fatou Ndiaye, la nappy girl blogueuse avec son blackbeautybag.com. Bonjour Fatou.
Bonjour.
200 000 visiteurs qui cliquent sur vos pages chaque mois.
Chaque mois, exactement.
Isabelle Cantarero, maman blogueuse depuis presque 8 ans avec monblogdemaman.com. Bonjour.
Bonjour.
2000 visiteurs par jour.
C'est ça.
Vous avez commencé à écrire en congé maternité. Vous nous raconterez comment, pourquoi, le blues. Et puis aujourd'hui, vous publiez aussi un vrai livre, 50 listes pour maman débordée. Séverine Bourlet de la Vallée, bonjour.
Bonjour.
Vous, vous êtes créatrice de l'agence de social media Tribegram Lab,
oui, c'est ça. Fait.
Et votre spécialité, c'est la communication sur Instagram. Instagram, on peut redire, ça pèse combien en millions de visiteurs?
C'est 300 millions d'utilisateurs à travers le monde entier.
C'est ça, et entre 60 et 70 millions de photos postées par
chaque jour
en moyenne. Hein. C'est, évidemment, c'est du lourd, ça a dépassé de loin Facebook. Nous sommes en ligne aussi avec une universitaire qui observe, qui décrypte ces tendances. Bonjour Laurence Allard.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'université Lille 3, puis vous travaillez aussi dans un labo, le labo IRCAF Paris 3. Et quant à vous, les voisines et les voisins, évidemment on n'exclut personne, dites-nous si vous êtes fidèle à des blogs sur la consommation, sur la vie quotidienne, quel que soit le sujet, ça peut être aussi d'ailleurs la musique, le sport. Dites-nous aussi ce que vous pensez des faiseurs de tendances sur le web, 33 1 84 22 71 71. N'oubliez pas aussi le hashtag 7 milliards. Votre histoire de blogueuse à toutes les deux, Isabelle Cantarero, Fatou Ndiaye, qui commence, Isabelle Cantarero?
Allons-y.
Comment ça a démarré?
Alors ça a démarré effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais en congé de maternité et je m'embêtais avec mon bébé.
c'est pas politiquement correct.
Non, j'étais la première de mes amies à avoir un bébé, je savais vraiment pas comment m'y prendre. Enfin, c'était déjà le deuxième, mais on était en plein été. Et puis, j'ai une copine qui m'a envoyé un lien vers un blog beauté. C'était la première fois que je voyais un blog. Je me suis dit, c'est fantastique, c'est ça que je veux faire. Et un quart d'heure après, j'avais ouvert mon blog, que j'ai appelé mon blog de maman. Voilà, sans réfléchir plus.
Qu'est-ce qui a vous a semblé immédiat? Pourquoi tout d'un coup vous avez dit, c'est pour moi, j'ai envie de parler, et à qui? Parce qu'on parle quand même, écrire c'est parler.
À qui, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est l'instantanéité du blog qui est formidable. C'est en 2 minutes, on peut penser quelque chose, l'écrire et le diffuser à toute la toile, à tout l'internet.
Oui, mais pour dire quoi? Il faut avoir un cri à pousser quand même.
Voilà, le cri c'était, c'est pas si évident que ça d'être maman. Et j'avais un petit peu envie d'en rire aussi, donc voilà, ce qui me passait par la tête. Parfois petit peu impolitiquement correct.
Oui, bah oui, ça a commencé dès la première phrase. Fatou Ndiaye, vous aussi, vous avez ouvert votre blog My Beauty Bag
oui,
la
Black
même
Beauty
année,
Bag,
non?
En 2007.
Black Beauty Bag, pardon.
Exactement.
Oui, c'est ça. Et comment, pourquoi?
Alors moi, j'ai commencé à connaître, à surfer sur Internet en 2004. C'était à l'époque, c'était pas les sites, c'était les premiers forums de beauté. Et ce qui m'a donné l'envie de créer mon blog, c'est que en tant que femme noire, je ne trouvais pas des produits adéquats de beauté, que ça soit maquillage ou capillaire, que ça soit dans les magazines ou à la télévision. Et en voyageant aux États-Unis et à Londres, j'ai vu que là-bas, tout ce qui était beauté pour femmes noires était très développé.
Et il y avait déjà beaucoup de blogs
déjà
dans le monde anglo-saxon.
Voilà. Et j'ai décidé avec l'aide, c'est ma sœur et une amie qui m'ont dit, sur le forum, tu parles beaucoup de beauté, tu donnes de bons conseils aux filles, pourquoi pas ne pas créer ton propre espace où tu partagerais tes envies et tes astuces et conseils. Et c'est comme ça que mon blog est né, c'était vraiment du partage.
Ouais. Et alors ce mois-ci, vous avez fait la couverture d'Amina,
exactement,
un très célèbre magazine diffusé, pas seulement sur le continent africain d'ailleurs, partout dans toutes les communautés noires.
Ouais.
Et vous avez fait la couverture du magazine, pas parce que vous êtes mannequin, parce que vous êtes une blogueuse devenue vraiment suivie sur la toile.
Exactement, oui.
Séverine Bourlet de la Vallée, pourquoi les femmes se sont tellement accrochées comme ça? Pourquoi elles ont tissé leur toile sur la toile?
Alors accrochées, je ne sais pas. Je pense que peut-être elles ont peut-être plus d'intuition sur la toile et son importance plus que masculin. Maintenant, je ne sais pas si on peut dire que c'est genré. Est-ce que les femmes sont plus présentes sur le web? Peut-être qu'elles prennent des initiatives. On le voit avec Isabelle, puisqu'elle disait « j'étais seule à la maison, j'avais envie de m'investir dans quelque chose, j'avais un bébé, grâce au blog, j'ai pu rompre cet isolement. » C'est pareil pour Fatou. Et puis, d'une chose et une autre, le web étant social, c'est-à-dire social dans le champ dont on échange.
C'est ça, les filles aiment échanger, parler indéfiniment, et donc avec le web, on est servi, c'est ça finalement, dialoguer, entrer en interaction.
Voilà. Moi, je crois surtout que, pour une fois, sur la toile, on ose prendre la parole. On n'attend pas qu'on nous la donne.
On nous la donne, moi.
Et c'est pour ça qu'on arrive à se faire entendre.
Laurence Allard, vous qui êtes chercheuse, pourquoi les femmes sur la toile autant?
Oui, bien, je rebondirai avec ce qui vient d'être dit. C'est Internet, c'est le média des gens ordinaires, c'est un média peer-to-peer, people-to-people, et donc ça a donné accès à l'expression à tout à chacun, et notamment ceux qui n'ont pas toujours accès aux médias traditionnels, et par exemple les femmes, avec forcément leur expérience qui va être la matière même de ce qui est exprimé, partagé. Et ça a élargi en fait le registre en fait de ce qui pouvait être raconté dans les médias précédemment, et donc c'est des expériences ordinaires de la vie quotidienne qui ont eu accès en fait tout simplement à des espaces de publication, ce qui n'était pas le cas autrefois.
C'est ça, les femmes ont quand même investi des sujets qui jusque-là, enfin jusqu'à il y a encore quelques années, étaient inexistants sur la toile. Hein. La toile, ça, on a commencé quand même avec des sujets relativement sérieux. Vous êtes arrivé dans des interstices finalement, mais des interstices qui sont omniprésents dans nos vies quotidiennes, non?
Oui.
En tout cas, en ce qui concerne la maternité, c'est vrai que tout ce qui était publié, que ce soit même les livres ou les magazines, était assez formaté. On a réussi à révolutionner, à bousculer un petit peu tout ce qui se faisait auparavant.
Comment toutes les deux vous avez, enfin à quel moment vous avez compris que Isabelle Cantarero, Fatou Ndiaye, que vous étiez suivie, que vous étiez lue, que vous étiez imitée, qu'on attendait votre avis, Fatou Ndiaye?
Moi, j'ai commencé à comprendre que ce que je partageais parlait aux femmes, c'est quand elles m'envoyaient des mails ou alors quand je voyais mes articles repris sur des sites ou même partagés. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais partie de quelque chose, un hobby, quelque chose que je... une passion, je pense que c'est pareil pour toi. On a commencé nos blogs sans prétention, on partageait quelque chose qu'on aimait, et on s'est rendu compte qu'en fait, des milliers de femmes qui nous ressemblaient ont trouvé en nous des porte-paroles, et c'est plus facile de s'identifier à des femmes qui les ressemblent qu'à des rédactrices ou à des présentatrices TV qui ont un cahier des charges à respecter. Et puis quand on parle, je pense que il y a une proximité qui fait qu'elles se sentent respectées, et en même temps elles se disent si elle est comme moi, on a pratiquement le même background, donc ce qu'elle dit, ça peut m'apporter quelque chose.
Isabelle Cantarero.
Dans la maternité, ça fait du bien de savoir qu'on est tous dans la même galère, en fait.
Ouais.
Et je pense qu'avec les blogs, on voit que l'intime devient universel.
Mais il y a eu un moment, vous avez eu un déclic, vous vous êtes dit, on attend de savoir ce que je pense sur tel truc.
Non, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, je parlais plus en l'air quand on commence à se livrer sur un problème de la vie quotidienne, et qu'on a énormément de soutien sous un article ou sur les réseaux sociaux des personnes qui disent oui, je vis la même chose que toi. Effectivement, j'avais jamais mis les mots comme ça, mais ça me fait du bien de lire ce que tu dis.
C'est ça.
Séverine Bourlet de la Vallée, vous qui avez monté une agence donc qui fait le lien entre des marques et puis des blogueuses, des blogueurs, enfin des gens qui sont extrêmement, ce qu'on appelle des e-influenceurs, parce qu'il n'y a pas que les blogs, hein, aujourd'hui, il y a Instagram, il y a énormément d'outils sur Internet, et vous travaillez surtout avec Instagram.
Oui, alors je travaille sur Instagram, mais j'ai commencé effectivement comme mes deux autres compères, hein, c'est-à-dire que moi je me suis inscrite personnellement sur Instagram en 2011, hein, et j'ai tout de suite compris que ça allait changer la façon dont les personnes allaient communiquer.
Après, il y a 5 ans, 300 millions d'utilisateurs aujourd'hui.
Voilà.
Ça a été un raz-de-marée.
Ça a été un raz-de-marée. Tout de suite, on a vu que le texte était là, mais que la photo pouvait véhiculer très rapidement des émotions. Et surtout, on pouvait communiquer à l'échelle mondiale, puisqu'on n'avait pas la barrière de la langue.
Ouais, c'est pour ça que vous avez mis sur votre site cette phrase de Victor Hugo, les mots manquent aux émotions.
Oui,
c'est Instagram l'a créé, sous-entendu.
Voilà. Non, parce que pour moi, la photo, c'est l'émotion et c'est le vecteur, je pense, un peu principal de la communication entre les marques. Enfin, en tout cas, c'est le placement. C'est ce que nous, on propose, c'est de toujours de mettre de l'émotion. Voilà, j'ai d'abord créé un site qui était plutôt culturel, qui était plutôt sur cette photographie issue des photos smartphones. Je suis rentrée dans un incubateur qui est à la Gaîté Lyrique, qui m'a beaucoup soutenue. Et puis après, les marques sont un peu venues vers moi naturellement. C'est un peu l'inverse.
Alors aujourd'hui, là, nos blogueuses, vous êtes partout, pas seulement sur le blog. Où est-ce que vous êtes respectivement, là je sais pas, Fatou Ndiaye.
Ben, je pense que comme la majorité des blogueuses, hein, Facebook, Instagram, dont je suis accro, fan.
Ouais. Parce que ce qu'il faut préciser aux voisins et aux voisines qui nous écoutent, c'est que vous avez toutes les trois votre smartphone posé sur la table et que vous n'arrêtez pas de pianoter dessus, de poster.
On a déjà tweeté.
Ouais. On a déjà tweeté, on a Instagrammé. Et Facebook et Twitter, voilà.
Ouais. Et pour vous, Isabelle Cantarero?
Pareil, Instagram, Facebook, Twitter. Je m'essaye un petit peu à Pinterest aussi.
Ouais. Laurent Salard, quel est le, enfin, comment on peut définir quelqu'un qui crée le buzz entre avoir la parole sur les réseaux sociaux et puis devenir une e-influenceuse? Quel est le chemin? Quelle est la distance selon vous?
Bon ben il faut replacer un peu ce phénomène des ces nouveaux talents numériques qui ont en effet un registre d'expression qui passe par l'image, le texte, donc qui est pluriel, qui correspond bien à l'usage qu'on a du numérique qui s'effectue à travers plusieurs outils, plusieurs types de services, plusieurs fonctionnalités. Mais il faut replacer cette culture de la célébrité d'un point de vue historique. C'est-à-dire qu'il y a finalement, ce sont les nouveaux talents, ce sont les nouvelles célébrités qui émergent sur la scène Internet, mais il y a toute une technique en fait qui va être sous-jacente à l'émergence de ces figures d'influence. Autrefois, le star system avait ses techniques, la télé-réalité a ses techniques.
C'est ça. Donc là, c'est devenu un monde en soi d'être e-influenceur ou e-influenceuse.
Et il y a des techniques donc sous-jacentes à cette problématique de l'e-influence qui va utiliser l'analyse des graphes sociaux et donc s'attacher à finalement occuper les nœuds de réseau. Et donc on est dans un système qu'un chercheur du MIT en réseau social,
l'université américaine, Massachusetts Institute of Technology,
a appelé la topocratie, c'est-à-dire que finalement...
Voilà, on est tombé dans les maths dures, là.
Oui, parce que d'une certaine façon...
On est parti de Madame Tout-le-Monde aux mathématiques.
Internet, c'est un réseau de communication informatisé, donc c'est à l'origine des ordinateurs, ça va calculer.
On va y revenir, voilà. À ces techniques-là, parce que vous deux, Isabelle Cantarero, Fatou Ndiaye, et d'ailleurs également Séverine Bourlet, hein, vous vous êtes un peu présentées comme des Madame Tout-le-Monde qui est tombée dans le web, et puis vous y aviez pris goût, et aujourd'hui, vous manipuler de véritables outils redoutables. Les e-influenceuses sont en direct chez 7 milliards. Et chez vous, on dit quoi? Est-ce que vous êtes fidèle dans votre pays à une voisine sur Internet ou à un voisin, un blog? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Who you know got a home, but seen to live on the road, looking like a black gypsy in a caravan of rose. Music for the people, I used to rap on the train. Now I rap on the stage and I'm used to capital gain. I ain't asking for change, I'm good at coining the phrase. What I want is more than ever and never to fade away. Is that too much to ask? Good, cause I ain't asking. Already into action, I had your answer retracted. So stay about my business, it's crowded enough with me. You added, it's just a witness I'd rather not even see. I'm good with the folks around me, get from around me before we commence to clowning. Yeah, keep it on the level, yeah, keep it on the level. I'm climbing up the ladder while you in need of a shovel. Skedaddle.
climbing up the.
Yeah. Don't give it to me easy, I like a little challenge. When it feels better, when you take a little damage. Slow learning, fast earning, stay burning, wheels turning. It's a on, going thing. Don't give it to me easy, I like a little challenge. When it feels better, when you take a little damage. Slow learning, fast earning, stay burning, wheels turning. It's a on, going thing.
Ongoing Thing chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des e-influenceuses, ces filles qui sont partout sur la toile avec des blogs, avec des comptes Twitter, Instagram, Facebook, et à qui on attend, enfin on demande leur avis sur à la fois des petites choses de la vie quotidienne, sur la maternité, sur la beauté, sur la mode, sur les tendances déco, mais ça peut être aussi le sport, la musique, la nature. Hein. Il y a pas de domaine réservé. Je parle sous votre contrôle, Séverine Bourlet.
Oui, la culture aussi. Ouais, j'ai beaucoup culture. De musées qui travaillent avec moi. Donc, c'est vraiment un secteur aussi.
Mais c'est vrai quand même que là, ce qui cartonne le plus, c'est tout ce qui est autour de mode beauté, parce qu'il y a des gros enjeux financiers derrière aussi. Les marques cherchent à communiquer via ces blogs et on va en parler. À partir de combien de followers, Séverine Bourlet, on devient une e-influenceuse, vous diriez?
Alors, sur Instagram, je dirais qu'il faut un peu nuancer, mais je dirais qu'à partir de 50 000 followers, vous commencez à intéresser les marques par votre possibilité de capturer votre audience pour mettre en avant des produits.
Alors, vous n'êtes pas à ça, mesdames, encore?
Non, j'en suis loin.
Ouais. Et pourtant, vous intéressez quand même des marques.
Oui, moi, je suis à 29 000.
Ouais.
Et Et c'est vrai que, par exemple, la marque Kukai, c'est comme ça qu'elle m'a repérée.
Ouais.
Comme des milieux de femmes, blogueuses ou pas, les filles, elles aiment bien tout ce qui est mode. Et puis, je partageais mes looks du jour. Ouais. Et la direction de la marque Kukai aimait bien mon style vestimentaire. Et ils me suivaient sur Instagram et ils m'ont contactée pour devenir ambassadrice de leur marque pendant deux collections consécutives.
Et vous, Isabelle Cantarero, alors, vous êtes à combien sur Instagram?
Je dois être à 1500, mais alors moi c'est assez difficile, comme je traite d'un domaine de la maternité, mais je ne veux pas montrer mes enfants.
Oui, j'ai remarqué. Donc, oui, je les ai cherchés partout.
Non, vous les verrez pas. Donc effectivement, ça limite un petit peu.
Ouais. C'est la limite, ça aussi, de pas montrer ses enfants, alors que vous avez commencé finalement en parlant de vous quand même. C'est comme ça que vous avez fait le buzz. C'est comme ça que vous avez attiré des lectrices et des femmes qui s'identifiaient à vous, non?
Exactement. Je pense que là, mes enfants deviennent un petit peu plus grands, donc les mamans sont aussi. Bon, c'est une période où on a moins besoin de conseils, alors que quand on a des bébés, là, on cherche, on tâtonne. Et puis, effectivement, le fait que je les montre pas, c'est moins visuel. Donc pour Instagram en tout cas c'est moins intéressant.
Alors on peut donner des comparaisons hein. La célèbre italienne la Chiara Ferragni, c'est ça, oui. 3 millions de followers, c'est ça, voilà. Oui. Donc
c'est la blogueuse la plus suivie.
Oui.
Et en France c'est Betty.
Le blog de Betty.
Oui.
Donc autour de 500 000, mais il y a aussi des Instagrammeurs qui sont à 600 000 et à 800 000 abonnés.
Oui, il n'y a pas que des femmes. Hein.
Il n'y a pas que des femmes.
Il y a des hommes aussi. Des hommes,
ouais. Domaine des hommes, dans ces cas-là, de prédilection, le domaine qui cartonne.
C'est beaucoup les jeux vidéo, l'automobile.
Sur Instagram hein.
Alors c'est plutôt autres aussi. Hein.
Sur Instagram, ça va être les voyages, ça va être la capacité, encore une fois, de profiter de leur audience pour produire des contenus photographiques d'exception. Et quoi de mieux que les voyages?
Ouais, voyage, automobile aussi, et cuisine. Je sais que tout ce qui est Instagram de cuisine, ça marche beaucoup. Voilà. Et do it yourself aussi.
Et puis alors, juste pour donner comme ça une petite indication, Oprah Winfrey, la célèbre animatrice américaine et femme d'affaires, a posté sur Twitter et sur Instagram à propos de sa friteuse, hein, pour faire des frites, avec la marque française Seb, et le cours de l'action a grimpé de 4% dans la journée qui a suivi le post. Voilà, c'est ce qui s'appelle être une e-influenceuse, si vous aviez pas encore compris la définition. On en parle après le flash dans 3 minutes. Hey.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins et un phénomène qui touche beaucoup les voisines du monde. Elles postent sans relâche sur la toile et leurs likes déchaînent les foules. On les appelle les e-influenceuses. On en a deux dans le studio. Isabelle Cantarero avec votre blog monblogdemaman.com. Bah, je crois qu'on a compris le sujet. Et d'ailleurs, vous vous présentez sur votre blog Maman Rock'n'Roll de deux adorables enfants de... Ils ont toujours 5 et 8 ans aujourd'hui ou ça a changé?
Je ne sais pas comment changer ça. C'est trop technique pour moi.
Ah oui, c'est parce que vous n'êtes pas si bonne que ça en fait pour
exactement
sur les je veux dire les branchements et la tringlerie d'un blog.
Non, c'est l'avantage d'un blog, c'est qu'en fait tout
on
est
peut
simple.
Être nul en informatique, c'est
tout
ça.
Tout est simple, on a juste à rentrer le texte, on appuie sur un bouton et puis pour le reste pour moi c'est complètement opaque.
Fatou Ndiaye, votre blog blackbeautybag.com, très suivi aussi blog sur la beauté des peaux noires. Séverine Bourlet de la Vallée, vous êtes créatrice de l'agence de social media Tribegram Lab, donc une agence qui fait lien entre les marques qui ont envie d'exister sur la toile et vous repérez justement les talents des filles qui sont comme ça dans le studio. Comment vous faites d'ailleurs pour repérer les super blogueuses instagrammeuses qui font le buzz et sur lesquelles les marques pourraient s'appuyer pour communiquer?
Alors j'ai deux petites voies, deux petits secrets. La première c'est un œil, c'est-à-dire que je repère que quelqu'un a un style unique qui va plaire à des marques quelles que soient. Et la deuxième c'est que j'ai déjà un petit réseau de personnes qui collaborent avec moi et qui n'hésitent pas à me dire tiens, regarde ce que fait un tel ou une telle, je trouve ça assez sympa. Et voilà, donc le bouche à oreille fonctionne aussi.
On était au téléphone également avec une universitaire, Laurence Allard, spécialiste de communication. Laurence Allard, aujourd'hui, comment, avec quelques années de recul, comment vous voyez ce phénomène émerger? Quelle durabilité?
C'est-à-dire ça prend finalement racine dans la révolution Internet, qui est une révolution donc de communication entre pairs, de communication interpersonnelle, et donc le rôle du consommateur a changé, c'est-à-dire il participe aujourd'hui à la codiffusion des produits, à la popularisation des marques, parce que justement il repose sur cette logique d'identification à des semblables, c'est-à-dire quand on va sur Internet, c'est non pas pour lire une parole médiatique ou d'un auteur, mais c'est pour lire d'autres soi-même en fait, qui partagent le même vécu, qui ont le même qui font des fautes d'orthographe sans que ce n'ait plus d'importance que ceci. Et aujourd'hui, donc, les jeunes filles, elles rêvent plus de ressembler à Enjoy Phoenix qu'aux stars d'autrefois. Et c'est cette horizontalité-là qui est extrêmement nouvelle, qui est aménagée par ce réseau de communication Internet. Et donc, là-dessus...
La génération, c'est quoi? Sont des moins de 35 ans, essentiellement?
Sur les youtubeuses comme Enjoy Phoenix, etc., oui, largement moins de 35 ans, ce sont des jeunes filles d'une vingtaine d'années.
Vous avez quel âge, vous, Isabelle Cantarero et Fatou Ndiaye?
Je fais partie de la première génération de blogueuses. Moi, j'ai 37 ans.
D'accord. Ah, ouais, bon.
Moi, 39.
C'est ça, d'accord. C'est ça, donc bien la première génération.
Voilà. Ouais.
Et alors, aujourd'hui, gagner de l'argent avec ses posts sur Internet, c'est possible?
Oui.
Oui. Oui, comment? Combien?
Tu veux avancer, je peux pas.
Fatou?
Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, la plupart des grands blogueurs sont chez des agences de blogueurs. Il y en a deux très connues en France. Donc, c'est eux qui nous contactent. Et après, qui gèrent nos contrats.
Donc, ce sont des agences, exactement, finalement, comme l'agence de Séverine Bourlet, mais pour Instagram, c'est ça, c'est l'équivalent.
C'est des agences de blogueurs, exactement. Ouais. Et voilà, après, c'est aussi les
parties. Alors, ils vous contactent, ils vous disent quoi? J'aime bien ton
style, j'aime
bien ce que tu
préconises. En fait, c'est des gens qui sont à l'affût, ils savent, ils connaissent tout ce qui est les chiffres. Ce sont des agences spécialisées qui traquent tout ce qui est sur Internet. Donc, en général, ils traquent les gens qui sont les plus suivis, les faiseurs de tendance. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite,
donc là, ils regardent quels chiffres chez vous? Les 200 000 visites mensuelles?
Ils regardent surtout l'influence qu'on a auprès des lecteurs, si nos propos parlent aux gens. Et puis ensuite...
C'est-à-dire les réactions dès que vous postez quelque chose, comment ça réagit, l'instantanéité?
On peut être blogueuse et être pertinente sans avoir un grand nombre de personnes qui nous suivent. Surtout que depuis quelques temps, il y a des gens qui pensaient...
Il n'y a pas que le chiffre, alors.
Il n'y a pas que le chiffre, parce que surtout, il y a quelques temps, Instagram et même Facebook ont commencé à faire le ménage, parce qu'il y a des gens qui achetaient des faux followers.
Oui, tout à fait. Oui, enfin, bon, voilà, l'influence, ça va être aussi, bon, moi, je suis vraiment un petit peu au cœur, donc pourquoi je vais contacter un Instagrammeur ou une Instagrammeuse pour une publication sponsorisée? Ça va être un ensemble de choses, hein. Ça va être déjà une patte photographique, vraiment un vrai talent. Ça va être une audience, mais c'est aussi l'engagement, effectivement, les commentaires, si la personne est vraiment prescriptrice.
C'est quoi l'engagement? Vous parlez d'engagement.
Souvent. Interactivité, je pense.
Ouais, l'interactivité, c'est
les... faire réagir notre voilà.
Je pense que les gens regardent si entre le...
La conversation sur Internet.
Entre la blogueuse...
Ce qu'on est en train de faire, là. Hein,
parce qu'on peut avoir... Il y a des gens qui ont des likes et on voit qu'il n'y a pas de commentaires. Et je pense que ce qui intéresse les gens, c'est surtout de voir qu'il y a une interactivité et qu'il y a quelque chose qui se passe entre la blogueuse et les gens qui la suivent.
Ouais. Alors, gagner de l'argent avec donc une publication sponsorisée, vous en avez, Isabelle Cantarero, vous gagnez votre vie avec votre blog aujourd'hui?
Non, je gagne pas ma vie par mon blog, mais grâce à mon blog. Dans la mesure, en fait, je travaille pour des marques, mais j'écris pour des marques, donc pour leur support à elles. De temps en temps, je fais des articles sponsorisés ou j'ai une régie publicitaire également.
Oui,
mais c'est
donc c'est votre vitrine, mais c'est pas ce que vous écrivez directement sur le blog qui génère tellement d'argent.
Voilà, exactement.
Vous pouvez nous donner un peu des chiffres ou pas du tout?
Moi, ça me dérange pas. Il y a des fois, je peux faire des billets sponsorisés, compris entre
des quoi?
Des billets sponsorisés.
Oui, des billets sponsorisés.
C'est par exemple des grandes marques.
Donc voilà, j'adore le dernier pull de Kukai, c'est ça?
Non, Kukai, c'est un contrat. Ça, bon, c'est sous.
D'accord, c'est autre chose.
C'est autre chose. Mais après, par exemple, quand c'est des billets sponsorisés, ça va être des marques qui vont vous contacter parce qu'il y a une sortie produit ou
quelque chose. Oui, c'est ça. Vous faites une démonstration sur un mascara, par exemple.
C'est à nous de choisir. Moi, par exemple, j'ai pris le parti de faire des billets sponsorisés avec les marques dont je suis fan et des produits qui me parlent, parce que le lecteur n'est pas bête non plus. Si je parle d'un mascara qui ne marche pas, les gens vont se dire elle a fait ça pour de l'argent, donc
alors justement,
nuire à ma réputation pour un one shot, c'est pas intéressant.
Akimélé a posté, elle est en région parisienne. Oui. Maman et cheveux crépus, nous dit Akimélé. Je trouve génial que nous ayons des consommatrices qui nous ressemblent, sauf que les publicitaires ont conquis leur cœur et vendent à travers elles leurs produits pour nous atteindre.
Oui et non, parce que pour la beauté noire, moi, c'est une autre problématique. Moi, j'ai fait partie d'une époque où vraiment les publicitaires ou même les médias s'intéressaient pas à tout ce qui était beauté noire. Et pour moi, en tant que consommatrice, j'estime que ma couleur de peau n'a pas à me pénaliser par rapport au fait que j'aime prendre soin de moi. Et j'aimerais que tout ça soit vulgarisé, si je peux me permettre de dire.
Non, mais là, le témoignage de cette fille, c'est qu'elle a compris que quand vous faites la démonstration d'un mascara qui fait des cils absolument formidables, il y a peut-être du cash derrière.
Pas tout le temps. On continue aussi à acheter nos produits.
Ouais. Bon, alors, vous n'avez toujours pas donné de chiffre, Fatou.
Oui, je disais, alors donc, un billet sponsorisé, par exemple, avec une grande marque, ça peut aller entre 1000, 2000, des fois 3000 euros. Ça dépend vraiment des marques et ça dépend.
Et ça, vous pouvez en avoir plusieurs par mois?
On peut en avoir un, comme deux ou trois. Ça dépend vraiment. Après, moi, la plupart du temps, c'est vrai que moi, je vis entièrement de mon blog. Et c'est les bannières pub, c'est le trafic aussi. Le trafic aussi avec Google, ça, comme les youtubeuses, les nombres de vues sur YouTube, c'est payé par Google.
Et c'est pour vous, Isabelle Cantarero, par exemple, il peut y avoir des marques qui vous demandent de tester des poussettes. On sait que le matériel de puériculture, aujourd'hui, autour de la petite enfance, est absolument... Il y a des enjeux financiers importants, hein.
Oui, ça arrive. Donc je fais des tests. Alors plus vraiment des poussettes maintenant, mais ça peut être des jouets, ça peut être des vêtements. Et là, je fais vraiment au coup de cœur, pas forcément payé. Ça peut être une petite marque que je trouve sympa. Et dans ces cas-là, je dis mais oui, envoyez.
Juste parce que. Donc là aussi, c'est du billet, c'est ça, ce qu'on appelle un billet sur le blog rémunéré.
Ah non. Moi, je fais rarement du rémunéré, et quand c'est rémunéré, de toute façon, c'est
on
indiqué,
est obligé de le
stipuler, poste, sponsorisé, il n'y a aucun doute. Donc, pour répondre à l'auditrice, moi, je lui dirais complètement non, en fait.
On a... Complètement non, ça veut dire vous êtes totalement sincère sur votre blog?
Complètement. Parce que la confiance de l'auditeur,
c'est important. C'est ça.
Si on perd la confiance de l'internaute, on perd... Finalement, ce qui nous fait vivre, on perd tout l'intérêt qu'on a d'être.
Parce que les lectrices, elles regardent tout ça. On vit à une époque où le consommateur, il fait partie intégrante de la communication. Ça veut dire quand il voit un produit, il s'informe, il s'intéresse à ce produit-là. On n'est plus à une époque où les gens, ils achetaient parce qu'on leur disait d'acheter. Ils regardent vraiment, ça va être les ingrédients, le packaging, ils regardent tout. Donc, comme disait ma collègue tout à l'heure, il y a notre crédibilité qui rentre en jeu. Donc, si je parle d'un mascara.
Dit, ma collègue, collègues, hein, c'est ça.
On est collègues.
C'est ça, vous êtes collègues.
Maintenant, on est collègues.
Vrai
oui,
métier.
Et si je parle d'un mascara qui ne marche pas, on va se dire, mais en fait, elle a fait ça pour se faire payer. Le mascara, il est nul. Et puis moi, après, ben, mon blog, il j'ai plus de crédibilité. Et
puis, au bout de 7 ans de blog, les gens savent à peu près ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, notre façon de vivre.
Ouais.
Si je parle d'un produit plein de bisphénol, alors que les gens savent très bien que je ne mets que du bio, oui, là, ça devient louche.
Là, ça devient bizarre. Ou comme être blogueuse beauté et puis parler faire un article sponsorisé.
Donc vous fixez des limites, même si vous avez une proposition alléchante.
Même, oui. J'ai déjà eu des propositions alléchantes, par exemple sur des marques de produits éclaircissants, les produits dépigmentants sur la peau, c'est des marques qui proposent des sommes à 5 chiffres quand même. Et non,
pour un billet, pour mon éthique,
j'ai déjà refusé des 8000, 9000 euros et parce que j'ai une éthique et je suis contre l'éclaircissement de la peau.
Et donc, vous risquez d'être décrédibilisé, c'est ça, finalement.
Oui. Et puis je suis contre.
Parce que le buzz, ça va vite, mais le buzz négatif.
Le buzz contraire, ça va plus vite que le buzz positif.
Oui, encore plus vite. Hein. C'est ça? Vous avez des exemples sur Instagram comme ça de réputation qui se ruinent très rapidement ou pas?
Non, les Instagrammeurs qui sont influents font très attention justement aux marques avec lesquelles ils travaillent et ils veulent être en affinité. Donc, il y a eu du buzz négatif, peut-être plutôt des marques qui ont utilisé du contenu sans être autorisées, mais pas vraiment les Instagrammeurs.
Sur la confiance, Laurent Salard, vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette relation ambiguë finalement entre influenceuse et suiveuse?
Non, mais on voit bien que cette économie de l'influence, elle se base à la fois sur une technicité et aussi sur des valeurs. C'est-à-dire on va construire techniquement l'influence à partir d'un talent communicationnel qui existe, de quelques-uns, et dont ce talent consiste à faire partager authentiquement son expérience. Et donc de savoir cultiver sa dimension de personne ordinaire. Et puis il y a toutes les agences d'influence qui vont à travers toute une technicité contribuer à construire techniquement cette influence qui est basée sur cette valeur de l'authenticité. Donc il y a un mix de culture de l'authenticité et puis cette logique très technique de l'influence qui consiste donc à analyser les réseaux sociaux, créer des super nœuds de réseaux et développer donc ce que j'appelais cette topocratie. On pense qu'Internet c'est un réseau horizontal, mais à travers tous ces nouveaux intermédiaires qui sont ces agences, etc. d'influence, se crée plutôt une sorte de méritocratie qui est totalement instrumenté par des outils d'analyse, de quantification, achat de followers, etc. Donc c'est un trompe-l'œil que cette culture de l'authenticité parce qu'elle est techniquement extrêmement construite et artificielle et donc c'est une nouvelle économie intéressante justement avec ces nouveaux talents numériques qui sont les blogueurs, les instagrammeurs et tous les nouveaux intermédiaires qui sont les plateformes, les agences, etc. Et tout ça participe de cette économie numérique basé sur justement ce partage d'expériences
spontanées et construites en
même
temps.
Ça a l'air très spontané, mais c'est extrêmement construit, même si l'intentionnalité est sincère et l'expérience est réelle. Mais il y a malgré tout un ensemble d'interfaçages qu'il faut aussi parler. Quoi.
Alors, comment devenir une e-influenceuse? Parce que forcément, là, vous faites envie, les filles, c'est évident. Et puis, il y a une question aussi de Giorgio à Bamako qui pose la question à Isabelle pour mon blog de maman. Combien de temps il vous a fallu pour que vos blogs soient connus et comment votre mari a perçu la création de votre blog? Réponse, ça sera juste après Longueur d'onde.
Que t'écoutes de la pop, de la soul, de la pop rock ou de la techno, de la dance soul ou bien du rap pour les pecno. Que tu carbures à la bière ou au cidre, à la save, à la weed, à la poudre, à l'acide. Si t'es saoulé par le rap de teenager, fatigué d'entendre piailler des bandes de Yorkshire, des rappeurs conscients qui te font la leçon par cœur, des gangsters foireux qui s'imaginent te faire peur. Je te propose un courant alternatif pour mettre la gifle et raflons la chair à vif avec la griffe d'un niveau qui va faire la diff. Quiconque m'appelle la mif prendra le même tarif. Leur crew, leur beatmaker et leur son, je me fous de savoir ce que les autres rappeurs font. Je rebondis au jeu d'échecs et leur plombe sur toute longueur d'onde, les moves de leur bion. En équilibre sur une main là où ils sont mal assis, entre leur mental et le mien, y'a des galaxies. Déprimé et humain, plutôt que de faire un maxi, rappeurs en rond, ne reste rien, qu'ils aillent voir un psy. Du haut de leur ignorance, ils trippent grave. J'en ai croisé des références des types braves, tellement super si fait sûr de ce qu'ils savent. On roule près du périph' et kiffe son sur l'étrave. Sista, ma sista, ne te formalise pas. Je ne fais que de la distraction, souvenez des istras. Comprenne qui pourra et bien qu'on puisse pas aimer. Prends nos carnets pendant que je ne fais que freestyle. Yo yo, t'as compris ou pas? Je te le refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Yo yo, t'as compris ou pas? Je te le refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Si
tu sais. Eh ben oui, nous sommes sur la même longueur d'onde chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des influenceuses après JP Manova, longueur d'onde. Alors on répond à la question de Giorgio à Bamako. C'est pour vous donc, Isabelle Cantarero. Combien de temps pour que votre blog soit connu?
Alors c'était un des tout premiers blogs de maman, donc effectivement j'ai eu le temps de bloguer tranquillement dans mon coin avant que ça commence à se faire connaître pendant à peu près 2 ans, moi, je dirais.
Pareil, bon, on a
et pour
commencé
vous,
en Fatou,
oui, vous avez commencé en 2007.
Comme je disais tout à l'heure, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait partie de la première génération de blogueuses, donc on a vraiment blogué, on a commencé à bloguer comme quand on commence à faire de la peinture et sans prétention, sans but précis, parce que après tout un blog c'est pas un métier, c'est vraiment un hobby, une passion qui s'est transformée en métier par la suite. C'est quand il y a eu vraiment l'ascension des blogs, c'était vers 2009-2010, donc on a eu le temps de bloguer tranquillement sans rien demander.
Et pour mon blog de maman, demande Giorgio, comment votre mari a perçu la création de votre blog?
Alors il a d'abord trouvé ça très chouette que j'ai une passion enfin.
Avant de s'ennuyer à la maison avec son bébé.
Non mais c'est vrai que je faisais pas de sport. Ça a vraiment été tout de suite une passion, le blog. Et ça je pense que c'est un point important à souligner. Oui. On n'a pas fait un blog pour faire un blog. Il a aussi été pendant longtemps mon photographe attitré parce que c'est assez technique. Il faut pouvoir faire des belles photos, avoir un joli rendu. Et puis il a fini par en avoir marre quand même que je dédie autant de temps à cette activité et à prendre mes enfants de dos, à faire des
dévorantes finalement.
Voilà, c'est dévorant.
Et vous, Fatou?
Moi, au début, oui, j'ai un chéri. au début, c'est vrai que les hommes sont comprennent pas trop. Bon, c'est vrai que quand on est là en train de faire des photos, et même que c'est pour Instagram, par exemple, moi, j'adore prendre tout ce que je mange. Alors est-ce qu'on peut manger? T'as fini de prendre tes photos? Et après, par la suite, ils s'intéressent, ils voient que ce qu'on fait, c'est vraiment une passion, et puis ils finissent par vous prendre en photo.
Ça rapporte un peu dans votre cas, hein, c'est ça?
Oui, et puis je pense que ça leur fait plaisir aussi, ils participent
parce
par la
vous,
suite.
Parce que vous, Fatou, vous n'avez pas d'autres emplois parallèlement, en fait.
Non, je vis entièrement de mon blog, ouais, c'est tout
ça,
à fait.
Ouais. Et puis on peut dire qu'Isabelle Cantarero, vous le disiez, votre blog c'est votre vitrine, donc ça a débouché sur des emplois parallèles, mais qui dépendent de ce que vous écrivez sur votre blog. Voilà. Hein, donc, alors, comment devenir une e-influenceuse, surtout aujourd'hui, où là, clairement, vous le disiez, vous êtes la première génération de blogueuses, aujourd'hui, il y a clairement de la concurrence.
Je dirais pas concurrence, moi. Je dirais que...
Des blogs de beauté noire, il y en a d'autres quand même.
Il y en a d'autres, mais tant mieux, parce que concernant la beauté noire, c'est très particulier, comme je disais. Plus il y en aura, mieux ça sera, parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que même si c'est ma passion, à travers mon blog, j'essaye de passer un message assez important. Et plus il y aura de femmes qui expriment la même chose que moi, et plus les marques prendront conscience qu'à un moment donné, il faut qu'ils s'adressent à toutes les consommatrices.
Ça veut dire que c'est de plus en plus dur pour vous, quand même.
Écoutez, je pense que pour moi c'est une passion et il y a de la place pour tout le monde et on a tous notre personnalité et les gens qui nous suivent, il y a des magazines qui arrivent à on va au Relais H, on achète un tel magazine pour ce qui peut nous apporter et c'est pas pour autant qu'on va se dire que l'autre magazine est concurrent. Chaque magazine a sa façon de parler et c'est pareil pour les blogs. Une fille va suivre telle blogueuse ou...
Alors quelle question il faut se poser quand on veut se lancer? Alors pas forcément sur un blog, d'ailleurs ça peut être sur Instagram, enfin quand on veut se lancer sur la toile et exister et devenir leader d'influence.
Sur internet comme partout, je pense que l'important c'est d'avoir quelque chose à dire.
Oui,
avant tout.
Oui.
Donc un thème, un style, c'est ça?
Un thème, un style, et peut-être pas forcément la volonté d'arriver en disant je veux être un influenceur. Parce que on voit les personnes ont commencé justement en étant très humbles.
Et encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut commencer, selon vous?
Oui, je pense qu'il faut arriver pour le plaisir de partager sa passion, quelle qu'elle soit. Et dans mon cas, c'est peut-être la passion photographique. Et puis après, se rapprocher des influenceurs. Pour savoir justement comment ils sont venir, pas vouloir imiter.
Et c'est ce que je dis moi souvent. Je reçois des mails de filles qui vont me demander comment t'as fait pour devenir connue. Et c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur parce que je leur réponds si tu veux faire un blog, qu'est-ce que tu veux raconter à travers ton blog. Et je pense vraiment qu'un blog, il faut avoir quelque chose à dire, avoir un propos. Et pour moi, on choisit pas de devenir influenceuse,
ce sont les gens qui ces idées, ce qu'on a envie de raconter, ça se teste d'abord dans les soirées entre copines, copains, etc. Par exemple, il faut déjà se faire remarquer par ses proches,
non,
être poussé par ses proches, dire ah mais toi tu dis des choses intéressantes, non,
pas forcément. En fait, un blog, c'est finalement comme quand on prend un café avec une copine, on a toujours quelque chose à dire, on a toujours un point de vue intéressant,
exactement,
pour notre copine, mais il faut juste savoir oser le dire.
Oser le dire.
Enfin, sauf que la bonne copine, si c'est une bonne copine, quand vous dites des choses parfaitement inintéressantes, elle dira rien. Sur un blog, ça pardonne pas quand même.
Voilà. C'est ce qui fait la différence. En fait,
vous faites bâcher sur vos blogs.
Pas dans mon domaine.
Ouais, ça arrive d'avoir des mauvais commentaires anonymes. Hein, ça, c'est pas. Ça
fait partie.
Ça fait. À un moment donné, quand on se met en scène sur la toile, on plaît et on peut aussi déplaire à des personnes. Donc ça.
Dur à encaisser parfois ou pas?
Moi, au début, je comprenais pas.
C'est beaucoup sur le physique en plus. Hein,
ça sera pas sur le physique qu'on va être attaqué. Ça va être surtout sur les propos où il y a des gens qui vont dire oui, bon, on comprend pas trop ce que vous racontez.
Alors, dans les conseils, on dit beaucoup qu'il faut apprendre à créer le dialogue, à créer l'interaction, répondre beaucoup aux messages. Ça, c'est difficile.
Au début, on peut, mais quand on atteint un certain nombre de followers, on peut pas répondre à tout le monde. Et après, c'est vrai que ça peut être mal pris par certaines personnes parce que on est des filles comme elles, donc elles se disent oui, si elle me répond pas, c'est qu'elle se prend pour une star.
À quelle fréquence vous postez, vous écrivez, vous envoyez des photos?
Si vous êtes sur Instagram, c'est vraiment important d'être régulier.
Ouais.
Ça veut dire poster tous les jours, au début, à une heure où généralement c'est le matin, parce que c'est là où il y a le plus de fréquentation, et prendre l'habitude d'aller voir les.
Mais
les
le matin pour qui, sachant que sur Instagram on est lu dans le monde entier.
Voilà, mais le matin, bon, sur peut-être le fuseau horaire de Paris. mais c'est vrai, vous soulevez une question intéressante. Par exemple, pour certains, ils se sont mis à publier très tôt le matin parce qu'ils souhaitaient s'adresser plus à une audience asiatique, et d'autres plus en fin d'après-midi parce qu'ils cherchaient plus une audience nord-américaine.
Ouais. Alors vous, votre agence a un pied à New York et un pied à Paris.
Oui, on a un pied à New York et un pied à Paris, puisqu'on a quand même un petit peu aussi des demandes qui sont situées sur le continent nord-américain. Donc
l'influence encore aujourd'hui, elle est beaucoup nord-américaine sur Internet.
Non, elle est mondiale.
Elle
est mondiale.
Justement, vous étiez il n'y a pas très longtemps à Dakar et Abidjan.
Et les gens sont très connectés.
Oui.
Très connecté, Facebook et surtout Instagram. Les photos, c'est plus parlant.
Isabelle Cantarero, vous, quelques conseils pour à la fois créer un blog, le dialogue, être partout sur la toile, une fois qu'on sait ce qu'on a à dire.
Alors, je pense, comme on a pu le voir au cours de cette émission, maintenant, un blog tout seul ne suffit plus. Il faut vraiment jouer avec les autres médias, donc poster presque l'envers du blog sur Instagram, sur Facebook, et faire en sorte que ce soit des médias complémentaires.
Donc, les coulisses des coulisses finalement.
Exactement.
Le blog, ça a déjà un côté coulisses de ma vie. Donc les
c'est
coulisses des coulisses
ça.
De ma vie, d'accord. Et puis
il faut donner envie. Alors pas forcément envie d'acheter, mais donner envie de faire la même chose. Faut être inspirant, quoi.
La qualité des photos, important.
Très.
C'est devenu important. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on a commencé avec des petits numériques. Enfin, quand je regarde les premières photos de mon blog, je rigole.
Je vois Isabelle aussi qui rigole.
Bah oui, parce qu'on voit maintenant les blogueuses, elles ont une armada des appareils photo hors de prix. Moi, j'ai acheté mon réflexe l'année dernière et c'est vraiment j'ai pris le bas de gamme à 300 euros. Après, comme je dis, faut avoir l'œil. C'est
pour vous, Isabelle. Hein.
C'est plein de choses qui entrent.
Mais de plus en plus, les photos, c'est vraiment essentiel. Ouais. Moi, j'ai commencé, je faisais vraiment des photos moches.
C'est-à-dire que maintenant vous y passez vraiment du temps.
Ouais. Maintenant, un billet prend vraiment beaucoup plus de temps qu'avant,
etc.
Parce que avant je postais des petites choses très courtes qui vont maintenant plutôt sur Facebook.
Ouais.
Je m'arrange pour que ce soit de belles photos, qu'on ait envie de les partager aussi, partager juste la photo, qu'elle puisse ensuite être publiée sur Instagram.
Donc quand vous avez une idée, il faut savoir sur quoi vous allez la mettre, c'est ça, en fonction des spécificités des réseaux sociaux.
Exactement. Et puis
vous pouvez nous donner des exemples.
Un exemple tout de suite. En tout cas, je ne poste plus jamais d'articles sans photos. par exemple. Parce que la photo va ajouter quelque chose à l'article.
Ouais. La qualité de la photo, pour vous
Oui, pour moi, c'est vraiment le critère le plus important. La qualité, mais aussi la créativité. On cherche toujours des personnes qui ont des visions fraîches, des nouveaux angles, des nouveaux points de vue. Donc, tous les jours, on trouve et on repère des pépites sur Instagram, des pépites photographiques.
Ouais. Le plaisir dans tout ça, ça continue encore aujourd'hui.
Ça doit rester le moteur.
Ça doit rester le moteur principal.
Mais vraiment?
Vraiment, parce que s'il n'y a plus de plaisir, je pense que les gens le voient et le sentent à travers l'écrit. On peut pas mentir.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Laurence Allard, vous qui êtes universitaire spécialiste des moyens de communication, vous travaillez beaucoup sur l'internet. Comment vous analysez ce qu'on vient de raconter?
Ce qui est intéressant dans les témoignages, c'est cette idée qu'il y avait une intention première qui est cette quête de reconnaissance de soi, le mari qui est fier que sa femme a une passion, qu'elle communique, qu'elle sache la faire partager. Mais on voit poindre aujourd'hui que l'influence en tant que telle, c'est-à-dire être célèbre, être populaire sur les réseaux sociaux, devient une valeur sociale pour les plus jeunes. Et parfois certains vont dire, applique-toi si tu veux avoir beaucoup de vues.
Vous les trouvez trop narcissiques là, celles qui arrivent derrière vous, les filles, les plus jeunes?
Non, on peut pas les accuser. Je veux dire, il y a eu une époque où il y a eu la mode des mannequins, la mode des chanteuses.
Bon, en tout cas, merci à vous d'être venus pour vous retrouver sur internet. Isabelle Contarero, monblogdemaman.com, Fatou Ndiaye, le blog blackbeautybag.com, Séverine Bourlet de la Vallée, créatrice de l'agence de social media Tribegram Lab, et Laurence Allard, vous êtes chercheuse à l'université de Lille 3. Tout est noté, bien sûr, sur RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, l'écriture manuscrite peut-elle disparaître? Voilà une question. Quand on sait que tous les étudiants, maintenant, dans les campus, écrivent avec...